OK, donc ce matin, le thème, c'est la consommation de drogue. Dans le cadre de notre série « Ne vous conformez pas au monde présent ». Et nous sommes à la leçon 21, donc il y a 20 leçons qui sont passées. Nous avions plusieurs thèmes ont été traités et c'était des thèmes assez pertinents. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer cette série-là avec la consommation de la drogue. Donc nous verrons dans l'ensemble, nous allons définir un peu les thèmes que nous avons. Ensuite, nous parlerons des effets de la drogue, c'est-à-dire sur les vies individuelles et sur les proches aussi. On parlera des liens, effectivement, que crée la drogue. Et suite à cela, nous allons voir comment faire face à la drogue. Mais ici, dans le comment faire face à la drogue, il y a plusieurs formules qui sont données et tout. Mais nous allons regarder simplement quelques principes qui vont nous permettre de pouvoir décider. Lorsqu'on n'est pas encore dans la drogue. Mais lorsqu'on est là-dedans, peut-être on n'aura pas le temps de le développer en tant que tel ce matin, mais comment on pourrait donner quelques pistes de solutions à ce niveau-là, dans les principes que nous allons donner. Donc, les généralités, ici, on sait que la drogue est un fléau mondial. Il y a l'OMS qui le décrit comme un problème de santé publique aussi. Et elle touche toutes les couches sociales, notamment les jeunes, les adultes, les femmes, les hommes. Et on se rend compte que tout le monde est concerné par cela. Et la drogue aussi a d'énormes dégâts dans la société pour le consommateur et aussi pour les proches. Donc, qu'est-ce que cela va impliquer? On va voir que les gouvernements vont prendre des décisions pour freiner effectivement ce fléau-là. Mais en plus des gouvernants qui prennent des décisions pour freiner ce fléau, on voit aussi qu'il y a des revendeurs de drogue, des trafiquants, des réseaux de trafiquants qui vont se développer de plus en plus. Alors, c'est un problème de société pour lequel le chrétien n'est pas à l'abri. Pourquoi le chrétien n'est pas à l'abri? Il n'est pas à l'abri parce que le chrétien peut être tenté même de prendre la drogue, ou encore, à défaut, si ce n'est pas lui-même, ça peut être son entourage. Et dès que l'entourage est impliqué à cela, ou est engagé dans la drogue, du coup, la personne qui est à côté devient un codépendant, parce qu'il va peut-être apporter des solutions, peut-être parce qu'il va chercher à faire en sorte que la personne ou son proche puisse en sortir. Donc, c'est pour cela que nous notons que le chrétien n'est pas à l'abri de cela. Ça peut être une action directe ou une action indirecte. Définissons un peu les termes. D'abord, la consommation, c'est quoi? La consommation, c'est l'ingestion de substances par différentes voies. Lorsqu'on parle de voies, ça peut être oral, donc par la bouche. On peut prendre la drogue sous forme de comprimés et autres, on peut les prendre par la bouche. Ça peut être par injection. Donc, par injection, on peut l'avoir intraveineuse, on peut l'avoir intramusculaire, on peut l'avoir sous-cutanée. Donc, tout ça, c'est par injection. On peut l'avoir aussi par voie transdermique. La voie transdermique, au fait, c'est des timbres qu'on va mettre sur la peau. Et puis, tranquillement, ça va dégager de la drogue à l'intérieur. Donc, pour ceux qui prennent les médicaments, pensez un peu au fentanyl, patch de fentanyl et autres, ou des patchs même de nicotine que les gens vont prendre pour pouvoir arrêter la cigarette et tout. Donc, c'est comme cela que ça va se dégager, par voie transdermique. Et par inhalation aussi. Par inhalation, ça peut être la poudre qu'on peut inhaler ou autre chose qu'on peut-être tenter de le mettre juste au nez pour pouvoir respirer et puis ça va faire son effet. Donc, lorsqu'on va parler de la consommation de la drogue, on va toucher toutes ces voies-là. Okay? Donc, chaque personne qui consomme la drogue va aller selon le type de voie qui l'intéresserait. Maintenant, la drogue, c'est quoi? La drogue, c'est une substance naturelle ou synthétisée ayant des propriétés psychoactives, c'est-à-dire qui agissent sur le cerveau. Donc, souvent, il y a des types de drogues où ce serait simplement des feuilles naturelles que les gens vont consommer, ou des types de drogues aussi qui peuvent être synthétisées. Donc, en laboratoire, des spécialistes vont concocter la formule de drogue et puis du coup, ça peut être sous forme de cristaux, sous forme de comprimés et cela, et les personnes vont pouvoir les consommer. Donc, les propriétés psychoactives, comme je l'ai noté tantôt, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur, qui agissent sur le cerveau. Mais comment elles vont intervenir, c'est-à-dire que ça va perturber le fonctionnement du système nerveux central en altérant l'équilibre chimique du cerveau. Au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Si vous voulez, on va rendre ça simple, hormones simplement. Donc, les neurotransmetteurs, c'est des hormones ou c'est des molécules chimiques que tout homme, que toute personne a au niveau du cerveau. Mais lorsqu'on va commencer à prendre, bon, je peux donner des exemples, notamment peut-être la dopamine, la sérotonine, si on en a entendu parler, l'acétylcholine, l'adrénaline ou noradrénaline. Et donc, au niveau du... lorsqu'on prend la drogue ou lorsqu'on consomme la drogue, c'est-à-dire la substance va venir désorganiser l'équilibre de ces neurotransmetteurs-là. Par exemple, la dopamine, les gens vont nous dire que c'est un neurotransmetteur ou l'hormone du plaisir, par exemple. Donc, pour celui qui va prendre une substance de drogue qui multiplie l'effet de la dopamine, donc celui qui va consommer cette drogue-là, arrivé à un moment, je vais dire, ce serait l'extase dans le plaisir que la personne va rechercher. Par exemple, l'adrénaline, on dirait que c'est le neurotransmetteur qui va nous permettre de nous défendre. Donc, en face d'une crise ou d'une situation de peur, soit on va affronter ou on va fuir. Ça, c'est l'adrénaline qui va être à la base de ça, ou la noradrénaline. Donc, pour celui, par exemple, qui a besoin de forte excitation, par exemple, pourquoi, va plutôt prendre une substance qui va multiplier ce type de neurotransmetteur-là. Donc, du coup, on va voir que ça va créer un déséquilibre au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est ce que la drogue ou les différentes drogues vont faire en fonction du type de drogue. Donc, elles vont perturber le fonctionnement normal du système nerveux central. Donc, qu'est-ce que cela va provoquer? Donc, cela pourra avoir une influence sur notre état de conscience ou notre humeur, notre comportement, notre perception ou notre motricité. On sait que le cerveau est le centre, le système nerveux central est un élément essentiel dans nos prises de décision, dans notre motricité, dans nos perceptions, dans notre locution même, notre langage et tout. Donc, lorsque cela est perturbé, ça va influencer effectivement notre état de conscience, notre humeur, notre comportement et tout cela. Donc, ça, c'est ce que la drogue peut faire à partir du déséquilibre chimique qu'on a au niveau du cerveau. L'alcool. L'alcool est une substance connue aussi pour ses propriétés psychoactives. Donc, c'est-à-dire que l'alcool peut créer les mêmes choses que nous avons avec d'autres types de drogues. Et elle s'obtient par fermentation ou distillation. On dit que c'est l'une des substances les plus consommées au monde. Et consommé en grande quantité, l'alcool altère aussi l'état de conscience, la perception. C'est une autre forme de drogue. Donc, contrairement à la drogue, je dirais l'alcool est légalisé, réglementé même, autorisé aux 18 ans et plus. Donc, dans beaucoup de pays, peut-être en dehors des pays musulmans, mais dans beaucoup de pays, l'alcool, c'est normal. Voilà. Donc, le risque ici pour l'alcool, ce serait de tomber dans l'abus de l'alcool. Maintenant, qu'est-ce qui va motiver la consommation de drogue? Les soucis de la vie. Des fois, on va dire, OK, on va prendre la drogue pour oublier un peu toutes les difficultés qu'on retrouve dans la vie. Donc ça peut être une motivation pour certaines personnes. Parce que la vie est tellement dure, difficile, que le seul moyen de s'en sortir, c'est la drogue. Ou certains vont dire, ceux qui vont abuser de l'alcool, vont dire, on va noyer nos soucis dans l'alcool. Mais quand ils se réveillent, c'est les soucis qui reviennent là-dessus. Donc, c'est un piège. La recherche du plaisir, de l'euphorie ou des sensations fortes, dont tantôt j'ai parlé un peu des neurotransmetteurs. Donc, dans le cadre de la recherche de ces plaisirs-là, certaines personnes vont prendre la drogue. Être à la mode, c'est-à-dire faire comme ses pairs, ses amis. Donc, ça peut être... Ça, souvent, à ce niveau-là, c'est plus la jeunesse qui est plus en danger. Parce que des jeunes vont vouloir faire comme leurs amis, ou pour être acceptés dans le groupe, il faut qu'ils fassent comme les autres. Donc, ça peut être une source, une motivation pour consommer la drogue. Être déconnecté de la réalité, j'ai noté ça, mais souvent lorsqu'on va parler de la déconnexion de la réalité, c'est qu'on pense à quelqu'un qui est schizophrène. Mais ici, je l'ai noté quand même, être déconnecté de la réalité, c'est-à-dire fuir la réalité. Donc, faire en sorte qu'on soit en dehors du monde dans lequel on vit. Donc, pour certaines drogues, les gens vont penser qu'ils sont plus forts, plus grands, et puis on marche sur les airs. C'est-à-dire pour oublier peut-être toutes les réalités qu'on a. Et pour bien se sentir et socialiser. Donc, comme je l'ai dit tantôt, appartenir à un groupe, appartenir à faire partie d'un mouvement et tout. Certains, l'initiation, ce serait de prendre la drogue. Le risque dedans, même occasionnellement, la drogue peut nous pousser vers la dépendance. Faire face à des situations difficiles, surmonter des souffrances affectives. Donc, des fois, lorsqu'on a des séparations ou on peut avoir des décès, et on cherche les moyens pour pouvoir peut-être s'apaiser, peut-être la seule option qui reste aux gens, c'est peut-être se cacher derrière des substances dopantes ou stupéfiantes pour pouvoir passer ces choses-là. Et l'un des éléments qui va motiver aussi la consommation de drogue, ce serait quoi? Le traitement médical. Donc, on est malade, on souffre on a un problème de santé, on arrive à l'hôpital et le médecin, il va nous prescrire des médicaments. Voilà. Donc, ces médicaments-là, pris en dehors des normes posologiques, peuvent devenir des drogues. Et enfin, on peut prendre la drogue pour réduire le stress ou l'anxiété d'autres problèmes de peur ou de phobie quelconque. Des personnes vont prendre la drogue. Les types de drogues. On a classé ici les drogues en trois types. Donc, il y a les perturbateurs, donc hallucinogènes. Quand on parle d'hallucinogènes, c'est-à-dire que c'est des drogues qui vont nous donner des hallucinations. Donc, on peut voir on peut avoir des hallucinations visuelles, comme on peut avoir aussi des hallucinations auditives. Donc, très souvent ici, les perturbateurs vont nous permettre de voir un peu, je dirais, le monde en couleur des fois. Mais ici, c'est quoi? Elles vont créer de la désorientation. Donc, désorientation dans le temps et puis dans l'espace. C'est-à-dire, on est coupé de notre réalité aussi. Donc, vont modifier le fonctionnement des sens et déforment la perception. Donc, à ce niveau-là, on a le cannabis, des champignons, la kétamine. Notons que la kétamine ici, c'est un médicament aussi, hein. LSD, MDMA ou ecstasy, PCP, phénicyclidine. Les noms sont beaux, mais ils sont très dangereux. On a les stimulants. Donc, les stimulants, ils vont causer l'agitation, l'excitation. On a l'impression qu'on est plus fort. Ça va nous donner de la force même. Des fois, on va les prendre, surtout pour les étudiants, par exemple. C'est dans ce type de drogue-là que les gens vont peut-être y aller. Parce que ça peut donner de la force, de l'éveil. On va vouloir étudier avec, on prend un peu, OK, d'accord, et puis ça décuple un peu nos capacités des fois. Donc ça, c'est un risque aussi, parce que lorsqu'on commence, on peut devenir assez dépendant de cela. Donc on aura l'amphétamine, la cocaïne, la méthamphétamine, par exemple. Et les dépresseurs, c'est-à-dire ils vont ralentir le fonctionnement du corps, déforment aussi la perception. Et là, ici, on a inclus là-dedans l'alcool. Quand on est ivre, on se rend compte effectivement que notre perception peut être déformée. GBG, l'héroïne aussi. Donc, ça sont des drogues, par exemple, qui vont ralentir le fonctionnement du corps Et dans ces drogues-là, on peut citer peut-être d'autres médicaments aussi, pris aussi de façon exagérée, peuvent baisser, peuvent créer de la... peuvent avoir un effet du moins dépresseur. La drogue est-elle légale? Donc, selon les pays, certaines drogues peuvent être... certaines drogues peuvent être légales ou non. Et certaines drogues sont permises, mais leur utilisation est restrictive. Donc, c'est le cas de leur utilisation comme substance médicale. Dans ce cas, cela prend une prescription médicale. On va en parler plus tard, par exemple, je peux parler des opioïdes, c'est-à-dire morphine, dilodide, on peut ajouter dessus fentanyl, codéine. Donc, tout ça sont des prescriptions, c'est des médicaments qu'on utilise régulièrement, la morphine même, qu'on utilise régulièrement à l'hôpital. Voilà. Donc, quand c'est prescrit par le médecin, c'est-à-dire il y a un dosage bien précis. Et puis, c'est pour un but thérapeutique. Donc, on ne le prend pas comme ça. Mais lorsqu'il est pris en dehors de ce cadre-là, en ce moment-là, cela devient dangereux pour nous. Parce qu'on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, la fentanyl, par exemple, qui est un médicament utilisé à l'hôpital pour traiter la douleur, est utilisé dans la rue et puis c'est devenu un fonds de commerce assez lucratif pour les réseaux de trafiquants de drogue. Et puis les dégâts sont énormes. Donc ici, la drogue utilisée de façon... la drogue, elle est permise, ou certains médicaments sont permis au niveau, lorsqu'ils sont sous prescription médicale. Au Canada, par exemple, on sait que depuis octobre 2018, le cannabis est légalisé. Ça fait l'affaire de tous. Hein. Parce que quand c'est légalisé, ça veut dire que ça devient normal. Il y a une étude qui a démontré effectivement que depuis la légalisation du cannabis, c'est-à-dire la prévalence de consommation, c'est-à-dire les anciens consommateurs de drogue, plus les nouveaux consommateurs de drogue a augmenté depuis octobre 2018. Donc, on se rend compte que lorsque la drogue est légalisée, le nombre de consommateurs aussi augmente. Parce que ceux qui étaient réservés parce qu'ils se disaient « Ok, elle n'est pas légalisée, si on la prend, c'est-à-dire on s'oppose aux lois, mais maintenant qu'elle est légalisée, c'est qu'il n'y a plus d'opposition aux lois, je peux aller dans les SQDC, voilà, dans les SQDC pour pouvoir m'en servir, et puis c'est normal, c'est légal. » La drogue est-elle légale? Les opioïdes, les benzodiazépines, la kétamine sont autorisées dans le cadre médical, comme on l'a dit tantôt, ce qui implique une prescription médicale pour un but thérapeutique. Donc déjà, lorsque on est en face déjà de la drogue, l'un des éléments qu'on doit pouvoir regarder, c'est-à-dire quel est le but. Si c'est un but thérapeutique, ok, d'accord, mais il faut que ça prenne une prescription médicale. Mais si je me retrouve dans la rue ou avec des amis et puis on veut m'offrir la drogue, j'ai dit, mais la première des questions que je dois, l'une des questions que je dois pouvoir me poser, c'est dans quel but est-ce que je prends la drogue? Donc, l'utilisation de cette drogue à la recherche d'un autre but, autre que thérapeutique, devient illicite. Donc, comme je l'ai noté tantôt, des réseaux de trafiquants vont développer beaucoup de drogues ou des médicaments, et puis ça devient donc illicite parce que ce n'est pas pris dans un but thérapeutique, ce n'est pas sous prescription médicale. Maintenant, est-ce que tout ce qui est légal est utile? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. La drogue, je prends l'exemple du cannabis, puisqu'on sait officiellement qu'on peut l'acheter maintenant, il suffit de se pointer dans l'un de ces points de vente, on peut l'avoir. Mais, 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, cela engage notre liberté chrétienne et notre responsabilité chrétienne aussi. Donc, tout ce qui est légal n'est pas forcément utile. D'abord, pour apprécier cela, est-ce que ce qui est légal est utile pour mon corps? oui ou non. Mais si ça doit détruire mon corps, c'est-à-dire que ce n'est plus utile pour mon corps. Donc ça peut être légalisé, ça peut être autorisé par les gouvernants, mais cela s'oppose à l'utilité pour mon corps. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, est-ce que tout ce qui est utile m'édifie ou édifie celui qui est auprès de moi? Tout ce qui est légal, excusez-moi. Mais la drogue ne m'édifie pas. Donc, ça veut dire que ça ne peut même pas édifier celui qui est à côté de moi. Peut-être que ça va m'édifier parce que ça va me permettre de voir le monde en couleur. Mais la personne qui est à côté de moi, est-ce que cela l'édifie? Donc, ça, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui sont autour de nous, pour notre entourage. Voyons les effets de la drogue. Donc, la drogue peut créer quoi? La dépendance physique. On a besoin constant d'une substance pour fonctionner, signe de sevrage lorsqu'on la cesse. Donc, au niveau de la dépendance physique, pour celui qui devient dépendant, qui a une dépendance physique, c'est-à-dire dès qu'il va arrêter la drogue ou la substance, il y aura des manifestations au niveau de son corps. Donc, c'est ce qu'on appelle les signes de sévrage. Donc, il pourrait avoir des tremblements, il pourrait avoir des maux de tête, des nausées, des vomissements, des crises de panique. Il a besoin de la substance pour pouvoir être tranquillisé. Donc, sur le plan physique, il y aura des manifestations de sevrage. Ça peut être même de l'insomnie. La drogue aussi peut créer de la dépendance psychique. Donc, la personne ne peut pas s'imaginer vivre sans l'effet de la drogue. Ça, c'est encore très dangereux. C'est-à-dire, tant que la personne ne prend pas la substance, elle ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, elle pourrait être incapable de travailler parce qu'il lui faut un peu de drogue, un peu de substance. Il lui faut un peu de substance pour pouvoir socialiser avec les autres. Tandis que la dépendance physique, ce seraient les manifestations que la personne va vivre au niveau physique, au niveau de son corps. Et les drogues aussi vont créer ce qu'on appelle, elles vont être neurotoxiques au fait. Donc, maux de tête, nausées, vomissements, insomnie et autres. Elles sont toxiques. Donc, toxiques, c'est-à-dire les drogues peuvent toucher tout le système ou tous les appareils du corps humain. Donc, tous les organes peuvent être touchés, c'est-à-dire le cerveau, le cœur, les poumons, la peau, l'appareil urogénital. L'appareil digestif même peut être touché. En ce moment, les drogues deviennent toxiques. Les drogues peuvent créer de la désinhibition. Et donc, avec la désinhibition, on pourrait avoir donc le risque de violence, d'agression, et on peut même être vulnérable. Lorsqu'on va prendre une drogue de type dépresseur, par exemple, arrive un moment où on est incapable de pouvoir se mouvoir et tout. Donc, on devient vulnérable même à l'agressivité, à la violence et autres. La drogue aussi peut donner des contractions musculaires, de l'angoisse, de l'étouffement, la modification de perception, je dirais même aussi de la douleur et bien d'autres choses. Maintenant, au niveau de notre entourage, relations familiales difficiles, des difficultés financières, parce que lorsqu'on devient dépendant, accro, ou on a de l'addiction à la drogue, c'est-à-dire, tout notre rêve là, c'est de consommer, c'est d'en acheter. Donc, ça peut créer de la difficulté financière. Séparation au niveau des couples, au niveau des familles, de charge émotionnelle pour l'entourage. Parce que l'entourage de celui qui consomme la drogue, non seulement est inquiète, a beaucoup d'anxiété, met tous les efforts pour pouvoir aider la personne à s'en sortir, c'est beaucoup d'émotions. Et des fois, celui qui consomme même peut ne pas voir toutes ces difficultés que les personnes autour de lui sont en train de vivre. Parce que lui, il est dans son monde. Parce qu'il est peut-être déconnecté de la réalité, parce qu'il pense noyer ses soucis là-dedans, mais ceux qui sont autour de lui en souffrent. les liens de la drogue et l'abus de l'alcool. Donc, d'entrée de jeu, j'ai dit la drogue pouvait créer des liens. Donc, la dépendance tient le consommateur esclave de la drogue. Pour celui qui développe une addiction, une dépendance à la drogue, il devient esclave de la drogue. Parce qu'on a dit tantôt, sans ça, il ne peut pas fonctionner, sans ça, il ne peut pas vivre. Donc, quand il se lève, c'est la drogue qui le pousse au fait, qui le guide. La drogue devient une idole, espérant qu'elle nous donne ce que l'on recherche. Donc, on va commencer à idolâtrer la drogue. C'est-à-dire, on ne va jurer que par elle. Si je ne la prends pas, non, je ne peux pas être au top de ma journée. Non, j'ai besoin d'elle pour prendre des décisions. J'ai besoin d'elle pour être inspiré. Donc, on commence à idolâtrer la drogue. Donc, ça, c'est le deuxième lien que la drogue peut créer. La passion pour une substance au détriment de l'amour de Dieu. Donc, notre amour est plus porté sur la drogue que sur l'amour de Dieu. Les dépendances conduisent à des comportements irrationnels qui frisent la folie. Donc, pour celui qui consomme la drogue, des fois, ses décisions sont étonnantes. C'est-à-dire, la personne sait qu'elle est en train de se détruire, même malade. La personne va dire, non, j'ai besoin de ma substance. Pourtant, on vient de lui dire, cela nous arrive souvent dans le cadre professionnel. Donc, on va voir des personnes qui vont arriver, effectivement. Mais la personne, elle est incontrôlable, elle ne peut même pas se tenir sur les jambes et tout. Mais à une heure bien précise, c'est-à-dire si on lui dit, OK, vos médicaments, on vous les donne aux 2 heures ou aux 4 heures. Mais la personne ne peut pas parler, elle a de la difficulté même à manger et tout. Mais aux 2 heures, comme une montre, aux 2 heures, la personne va te sonner pour dire, ah, j'ai besoin de mon médicament. Tellement la personne est dépendante. Mais offre toute autre chose, mais la personne va te dire, non, j'ai pas besoin de ça. Mais aux 2 heures, aux heures ou selon, la personne va dire, non, j'ai besoin de ça. Et des fois, le sévrage est difficile. Ou l'abstinence même aussi est difficile. La dépendance empêche la croissance spirituelle et nous détourne de Dieu. Parce qu'on n'a plus, on a plus cette concentration-là. Pourquoi? On va revenir plus haut. Parce que les substances chimiques au niveau du cerveau sont désorganisées. Alors, comment faire face? Donc, comment pouvons-nous faire face à la drogue? Le principe, ici, c'est nous appartenons à Dieu qui nous a rachetés par son Fils. Nous ne devons pas nous détruire. Et 1 Corinthiens 6, 19 à 20 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la première démarche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, déjà, en face de la drogue, le premier principe qu'on doit pouvoir aborder ou la première réaction qu'on doit pouvoir avoir, c'est que notre corps ne nous appartient pas. Mais pourquoi? À cause des effets de la drogue qu'on vient de voir. On sait que les prendre, ces effets-là vont détruire le corps, en réalité, qui ne nous appartient pas. Donc, nous devons être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous confie, n'est-ce pas? Donc, le corps fait partie de ce qu'on doit apprendre à bien gérer. Deuxième principe, nous devons être soumis aux autorités, sauf si la loi s'oppose à la parole de Dieu. Et tantôt, on parlait de la légalité de la drogue. C'est-à-dire, dès que la drogue est légale, C'est-à-dire, là, on est soumis aux autorités si on la prend, parce qu'elle est légale. C'est-à-dire, l'autorité ne s'oppose pas à sa consommation. Donc, l'autorité ne s'oppose pas à la consommation du cannabis. Donc, même si je prends en tant que chrétien, pour moi, c'est pas un péché, c'est normal, parce que je suis soumis aussi à l'autorité, je ne suis pas rebelle à l'autorité. Mais donc, ce principe va s'opposer au premier principe qu'on a vu, ne pas détruire notre corps. Donc, une des choses importantes, c'est de regarder toujours les principes. En fonction des situations, on peut aller étape par étape. Donc, ici, on nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Mais lorsque les drogues sont déclarées illicites par les autorités, nous ne devons pas les consommer. C'est-à-dire, là, on a essayé de citer les différentes, donner quelques exemples de drogues, mais dans tous les exemples de drogues qu'on a donnés, peut-être on a l'alcool qui est réglementé, autorisé, on a le cannabis aussi qui est autorisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est d'aller au principe 1. Est-ce que ce que je prends détruit mon corps? Quels sont les effets sur mon corps? Donc, à partir de ces effets sur le corps, on se rend compte effectivement que la légalisation de la drogue, pour nous, ne nous pousse pas à consommer la drogue. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas utile. Et deuxièmement, parce qu'elle n'édifie pas. Et le risque ici aussi pour la consommation de la drogue, c'est consommer la drogue de façon occasionnelle. Et on peut se dire, ah ok, en passant, moi je ne prends pas la drogue de façon régulière, mais en passant je vais la prendre une fois et puis c'est tout. Ou je vais la prendre peut-être à des moments particuliers, spécifiques. Je peux prendre la drogue, mais je ne fais pas de ça une habitude. Mais le risque de la drogue, c'est que ça crée de la dépendance. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ok, je vais essayer et puis s'arrêter là. On peut commencer à essayer et puis on peut être accro à la drogue. Donc ici, ce qu'on peut retenir au niveau de ce principe 2, lorsque la loi ne s'oppose pas à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'elle s'oppose à la parole de Dieu, là, il y a un problème. Je peux citer, par exemple, je peux donner l'exemple de l'avortement qu'on a vu ici. Je peux donner l'exemple de peut-être de l'homosexualité aussi. Tout ça là, c'est des éléments qui, dans la société où les gouvernants vont approuver, effectivement, vont dire que c'est normal qu'on peut les pratiquer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela s'oppose à nos valeurs. Donc ça, c'est la chose la plus importante à la base qu'on va mettre en avant lorsque nous sommes en face de la loi, en face des choses légales. C'est bon? Principe 3, Jésus-Christ rend réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Pas besoin de se sentir libre dans les substances. Donc on a vu tantôt les motivations de la consommation de la drogue. Donc parce qu'on veut se sentir libre, on veut se sentir moins stressé. On veut se sentir plus autonome dans ce qu'on fait. Donc, on va se mettre dans la drogue pour avoir cette liberté-là. Mais la drogue, ce n'est qu'illusoire. La consommation de la drogue, ce n'est qu'illusoire. L'abus de l'alcool, ce n'est qu'illusoire. Ne nous rend pas réellement libres. Parce que lorsque l'effet escompté qu'on recherche passe, on se retrouve encore dans la même spirale. Donc, on se retrouve à être pris au piège par la drogue, par ces substances dopantes ou stupéfiantes. Mais ce qui nous rend réellement libres, c'est Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité, ou du moins l'illusion que donne la drogue, au fait, c'est un mensonge. La drogue ne rend pas libre, mais c'est Jésus-Christ qui rend libre.
Boire pour oublier
qu'on Voilà, boire pour oublier qu'on boit. C'est ça. C'est-à-dire, on boit, mais l'objectif, ce n'est pas juste pour, je dirais même pas un plaisir. Mais on boit juste pour se noyer, pour noyer ses affaires, pour fuir une situation, ou pour pouvoir être soulagé d'une déception amoureuse ou quoi que ce soit. J'ai un verset que je voulais lire aussi, mais je ne sais pas s'il est là. S'il n'est pas là, on va le lire directement. Le principe 4, on dit Dieu prend soin de nous, allons à lui tel que nous sommes. C'est-à-dire Dieu, il nous aime dans nos faiblesses. Tel que nous sommes, c'est comme ça il nous aime. Donc, dans nos faiblesses, il va nous aimer pour venir nous restaurer, nous renouveler, et puis nous guérir aussi. Donc, 1 Pierre 5, 6, 8 et Hébreux 4, 15. Hébreux 4, 15 nous montre que Dieu peut compatir à nos faiblesses. Et 1 Pierre 5, 6 à 7 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quels que soient les charabia que les gens vont nous raconter, on doit pouvoir comprendre que Dieu nous aime et il est prêt à prendre soin de nous. Souvenons-nous un peu de la parabole de ces oiseaux-là qui ne sèment ni ne moissonnent. Mais la Bible déclare que Dieu prend soin d'eux. Donc nous aussi, c'est pareil. Des fois, on peut passer par des moments tellement difficiles qu'on se dit, ah non, certainement, peut-être qu'il me faut quelque chose qui va me soulager. Mais la première des choses dont on a besoin, tel qu'on est, dans notre misère, dans notre, je dirais même dans notre bas-fond, c'est de nous décharger sur le Seigneur. On a besoin de pleurer. On peut pleurer sur les genoux de notre Père. On a besoin d'être content de rire. On peut rire sur les genoux de notre Père. Il est là, toujours pour nous. Et le cinquième principe que j'ai noté pour terminer, c'est être sobre et vigilant. Toujours dans la suite, là, 1 Pierre 5, 8, on nous dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc cela nous interpelle à quoi? À la vigilance. Parce que, qu'on le veuille ou pas, comme le titre de la série nous le dit, ne vous conformez pas au monde présent. Mais nous sommes dans le monde présent. Et il y a des réalités du monde présent qui seront en face de nous. Donc, c'est à nous de déterminer quelle attitude on prend en face de ce monde présent. En face de ce monde, comment on réagit. Donc, nous devons être sobres, nous devons veiller. Parce qu'autour de nous, notre adversaire, il ne manque pas d'intervenir, d'agir. Avant de conclure, quand même, il y a un aspect qui me vient à l'esprit, je n'ai pas eu le temps de le développer, c'est lorsqu'en famille, on est confronté avec quelqu'un qui consomme de la drogue, et c'est difficile. Quelle est notre attitude? Comment on peut réagir en tant que chrétien? Ou en tant que parent, en tant que famille, pour pouvoir accompagner cette personne-là? Prier, premier élément, comme la sœur le dit. Prier. Mais en plus de la prière, est-ce que notre attitude aussi est importante? Donc, notre attitude en face de la personne est aussi importante. Parce qu'il va nous arriver souvent de regarder, c'est-à-dire pour celui qui est dans cette situation-là, de regarder la personne avec, des fois avec mépris. On se sent honte, on a honte nous-mêmes parce que c'est un proche, c'est un fils, c'est un frère. En tant que famille, on se gêne, on a honte. Mais au-delà de la honte, notre attitude, notre approche est aussi très importante pour aider la personne. C'est-à-dire, au lieu que la personne soit marginalisée, certainement que la personne a besoin d'écoute. Et ce manque d'écoute-là fait que la personne va écouter plutôt la drogue. Donc, notre attitude aussi est importante. Des fois, c'est difficile. C'est même très difficile. Mais la prière et notre approche peuvent aider à trouver des solutions. Troisièmement, au niveau de la société, il y a des structures aussi qui existent qui peuvent aider à l'accompagnement. Notamment pour ceux qui sont dans l'abus de l'alcool ou les alcooliques. On a le AA alcoolique anonyme qui existe aussi pour pouvoir aider à prendre en charge. Donc, en plus de la prière, en plus de notre approche familiale pour accepter la personne, aider la personne, il y a des structures qui existent aussi qui peuvent accompagner, qui peuvent nous aider à aider cette personne-là. Pour conclure, je dirais que l'Église a un rôle important à jouer dans la prévention de la consommation et dans l'accompagnement du consommateur en se fondant sur certains principes bibliques. Donc, les quelques principes qu'on a énoncés, et puis peut-être d'autres aussi. Autrefois esclave du péché, aujourd'hui, affranchi par Christ pour être esclave de Dieu. Soyons sobres et reposons-nous sur Dieu. Et comme dernier tiret, j'ai dit, si quelqu'un parmi nous est aux prises avec la drogue, se sent captif, en prison, oppressé par la drogue, il y a encore pour toi une possibilité de restauration en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et le verset que je voulais lire pour finir, tellement c'est Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18, il dit ceci. Là, c'est le Seigneur qui parle dans la synagogue, le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, lorsqu'on se sent oppressé, lorsqu'on se sent captif, lorsqu'on se sent emprisonné par ces substances-là, on doit pouvoir encore se rappeler qu'aujourd'hui encore, Jésus est capable d'apporter la délivrance et la restauration. Donc, que le Seigneur nous bénisse, je vais prier. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur, toi qui es vivant, toi qui es puissant et toi qui règnes encore pour nous restaurer, pour nous renouveler. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cet enseignement que ce matin tu nous donnes. Nous voulons te prier dans ta grâce afin que Seigneur tu nous donnes d'être vigilants, de nous appuyer sur toi Seigneur parce que c'est toi qui nous rend réellement libres Seigneur. Et de façon particulière, nous voulons prier pour les familles qui sont aux prises avec un membre qui, Seigneur, a fait de la dépendance à la drogue. Nous voulons te prier pour que, Père, tu sois la force de ces familles-là. Tu sois le soutien de ces familles-là, Seigneur. Là où il y a le découragement, là où il y a l'abattement, Seigneur, nous te prions que tu viennes relever les cœurs et fortifier dans ta grâce. Et Père, tu puisses apporter ta délivrance, parce que nous croyons encore que tu es capable aujourd'hui de restaurer, tu es capable de renvoyer libre, tu es capable de délivrer les captifs, Seigneur. Père, merci pour ta fidélité et fortifie ton Église aussi, et fortifie-nous, fortifie ta jeunesse et donne sagesse dans nos décisions. Renouvelle-nous par ton esprit, au nom puissant de Jésus. Amen.